Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, sur les compassions et les pardons, car nous nous sommes rebellés contre lui, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, pour marcher selon ses lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versés sur nous l'exécration et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. Et il a accompli ses paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un mal si grand que rien ne s'est fait sous les cieux comme ce qui était fait à Jérusalem. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, et nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte, et qui t'es fait un nom comme il paraît aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications. Et, pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute. Ouvre tes yeux et vois notre désolation, et la vie qui est appelée de ton nom. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Et je parlais encore, et je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et je présentais ma supplication devant l'Éternel mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore en priant, et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir.
Que mot très bref. Ce qui est d'ailleurs impossible de résumer ce que nous avons entendu ce matin à l'égard de la prière si touchante de Daniel et dont le caractère actuel si opportun nous a été souligné. Cet homme de Dieu, âgé, dans la vie duquel on ne relève aucune défaillance, s'unit au peuple de Dieu pour confesser son bas état, sa misère, et le fait qu'ils n'ont pas écouté. Exemple si saisissant et si propre à nous toucher aujourd'hui et à nous faire saisir que telle est la pensée de Dieu dans un témoignage si affaibli dans une église en ruine comme Daniel, comme Esdras, comme Néhémie s'associer au peuple de Dieu. Et mener deuil devant Dieu, le deuil qui convient relativement à cet état. Cette prière ne peut pas rester sans réponse. Elle touche le cœur de Dieu lui-même. Nous rappellerons seulement qu'il nous a été souligné, que la parole de Dieu présente de façon évidente, qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Or, écouter est meilleur que sacrifice, dira le prophète Samuel à ce roi Saül. Écouter est meilleur que sacrifice. Et le prophète Jérémie, on nous l'a rappelé, reprochera au peuple bien des fois de ne pas écouter. Et quelqu'un, un cher frère, tout à l'heure nous disait un passage du psaume 83, l'Éternel peut dire, « Oh, si mon peuple m'avait écouté !» Que de peine, que de maux, que de souffrances auraient été épargnées, parce que l'intention de Dieu, c'est de bénir. Et châtier, exercer le jugement, c'est son œuvre inaccoutumée. Vous n'avez pas écouté. Et même au temps de Jérémie, peu de temps avant la captivité, ou au moment de la captivité, ils diront au prophète, « Eh bien, la parole que tu nous dis au nom de l'Éternel, nous ne l'écouterons pas. » Voilà la phase finale de la rébellion qui s'exprime par ce refus formel d'écouter. Aussi, il n'y avait plus de remède et le jugement devait tomber sur ce pauvre peuple. Mais Daniel n'oublie pas qu'à côté des voies en jugement que Dieu se doit à lui-même d'exercer, selon ses justices, selon le fait qu'il est conséquent avec lui-même, il a fait des promesses. Et nous, on nous a rappelé les promesses faites à Moïse, la promesse faite à Salomon en réponse à sa prière, et Daniel, avec une intelligence particulière, rappelle à Dieu ce qu'il a promis pour des temps tels que ceux-ci. Nous a fait remarquer deux mots, qu'il ne remonte pas jusqu'à Abraham. Le temps n'était pas venu. Dieu rend intelligent par son esprit, et Daniel reste dans le cadre que Dieu a tracé pour l'état du peuple dans ces jours-là et à l'occasion des circonstances qu'il connaît, assujetti à la puissance des ennemis, mais le temps de la délivrance finale, l'accomplissement des promesses faites à Abraham et qui sont inconditionnelles n'a pas encore sonné. Et ce matin, nous n'avions plus le temps, mais je dirai seulement deux mots à l'égard de cet appel à Abraham. Dans le Nouveau Testament, les personnes qui vont s'adresser à Dieu et qui font partie de ce petit résidu, comme il y en avait au jour de Daniel, quelques-uns, ses compagnons, ceux qui accompagnaient Jérémie, dans le prophète Ézéchiel, il y en a quelques-uns aussi. Dieu s'est toujours réservé un petit résidu. Et au début de l'évangile selon Luc, l'Esprit Saint voulut nous tracer leur histoire. Elle est extrêmement belle. Et là, le Sauveur est sur le point de naître, celui qui est au cœur de toutes les promesses de Dieu. Et c'est Marie, la première, qui va parler, qui va chanter un cantique en présence d'Élisabeth. Et elle va signaler un motif de louange très particulier, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre », dira Élisabeth à Marie. Le fruit de ton ventre, la semence de la femme. Voyez, maintenant, nous ne retournons pas seulement des promesses faites à Moïse, à des déclarations pleines de grâce que Dieu fait à Salomon en réponse à sa prière, mais nous retournons jusqu'à la première page de la Bible, lorsque Dieu s'engage à détruire toutes les œuvres du diable en suscitant la semence de la femme, béni est le fruit de ton ventre. La deuxième chose que nous trouvons dans ce cantique, c'est Marie alors qui le proclame lui-même dans ce que l'on appelle le Magnificat. Elle célèbre le puissant qui m'a fait de grandes choses. Elle ne dit plus le puissant de Jacob comme dans l'Ancien Testament, car l'horizon s'élargit, le puissant maintenant c'est lui, la puissance de Dieu qui va paraître sur la scène et à l'égard de tous les hommes en grâce. De sorte que le puissant de Jacob, ce qui restreignait la promesse de Dieu au peuple d'Israël, est supprimé. Vous voyez comme l'horizon s'élargit. Et cette femme ajoute, selon qu'il avait parlé à nos pères envers Abraham et envers sa semence, elle a la hardiesse, elle, de remonter jusqu'à Abraham, parce que celui qui va accomplir tout ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, sa main l'accomplira, il n'est pas un homme pour mentir, celui par qui et à travers lequel, et sur la base de l'œuvre duquel tout s'accomplira, il est presque sur la scène. Sauf que nous avons la semence de la femme, nous avons le puissant, non pas de Jacob, mais le puissant tout court, pour toutes les familles de la terre. Ensuite, nous allons à Abraham, et Zacharie, lui, il va nous introduire dans un autre accomplissement des promesses que Dieu a faites à David. Et en même temps, il va nous dire que Dieu s'est souvenu de sa sainte alliance, du serment qu'il avait juré à Abraham. Daniel ne fait pas appel à l'alliance que Dieu a traité avec Abraham et au serment qui confirme ce que Dieu a dit, de sorte que par deux choses immuables, dira l'apôtre, la parole de Dieu et le serment, nous ayons, nous aujourd'hui, une ferme consolation. Nous ne trouvons pas cela chez Daniel. Quelle intelligence! Il se tient dans les limites que Dieu a signées pour ce temps-là et il n'en déborde pas, montrant ainsi son intelligence spirituelle. Mais quoi qu'il en soit, pour ce temps, on a rappelé que c'était un exemple infiniment précieux d'un cœur qui aime le Seigneur, qui se tourne vers la parole, vers les consolations qu'elle contient, pour lui le livre de Jérémie, et vers la prière, et qui s'associe au peuple de Dieu. Il ne dit pas « je », il dit « nous ». Il prend sur lui toute cette misère. Ne se sépare pas d'une manière, à la manière du pharisien, d'un peuple qu'il repousse, qu'il méprise en raison de son état. Il prend sur lui, comme Esdras et Néhémie, quel exemple pour nous. Toute la misère du peuple de Dieu. On lira avec profit, nous n'allons pas nous étendre. Jérémie 35, puisqu'on a cité ce matin ceux qui étaient dans ce cercle étroit, bien sûr, et peu nombreux de fidèles qui aimaient le Seigneur. Jérémie fait entrer la famille de Jonadab, fils de Rechab, dans le temple. Nous n'allons pas nous étendre sur ces détails, tout le monde les connaît, mais ils sont utiles à rappeler. Et ces hommes qui viennent du désert, qui n'ont pas du tout l'habitude de la ville et entrer dans le temple de Dieu, quel moment impressionnant pour eux. Et Jérémie a disposé des gobelets remplis de vin et leur dit, eh bien, buvez-en tous, je vous invite à boire le vin dans le temple de Dieu. Eh bien, voilà ce que le cœur de Jérémie sans doute battait à se rompre, se demandant que vont-ils faire. Mais l'un d'eux répond, nous avons reçu un commandement, des indications précises de la part de notre Père et nous ne boirons pas de vin. Nous voulons être fidèles à la parole de notre Père, aux enseignements qu'il nous a donnés et nous regrettons Jérémie, nous ne buvons pas de vin. Quel soulagement pour ce prophète. Alors quatre fois il dira, vous n'avez pas écouté alors que vous êtes en relation avec l'Éternel. Et eux, rien que pour être fidèles à leur Père sur la terre, ils ont écouté. Quatre fois, vous n'avez pas écouté. Quatre fois, eux, ils ont écouté. Voilà ce qui caractérise, bien entendu, un résidu dans tous les temps.
Si l'on voulait donner une division à la lecture qui nous a été faite, en tout cas jusqu'au verset 19, nous pourrions dire que du verset 8 qui nous a été lu jusqu'au verset 14 inclus, nous avons là essentiellement la confession de Daniel. Et à partir du verset 15, nous avons plutôt les ressources auxquelles il fait appel, lesquelles ressources sont introduites à deux reprises par cette expression « et maintenant ». Et maintenant. La confession, nous l'avions déjà dit ce matin, il y a bien des détails sur lesquels nos frères entreront peut-être. Elle se résumait essentiellement à cette expression qui revient à quatre reprises dans sa confession, nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas écouté. Il est remarquable que la demande des ressources, la demande qui sera faite de façon expresse, de la part du serviteur sera alors « Seigneur, écoute, nous n'avons pas écouté, mais toi tu es un Dieu qui écoute. » Il faudrait peut-être un peu approfondir ce que c'est que « écouter ». Il y a là des jeunes et des moins jeunes, et il est peut-être bon simplement de rappeler ce que le Seigneur disait dans cette parabole, une des plus connues, du semeur qui sème la semence. Il y a la semence qui est semée le long des chemins, elle ne germe pas, celle qui est semée dans des endroits rocailleux, et celle qui est semée également dans les buissons et dans les buissons et étouffée par les épines. Ce n'est pas de cela que nous parlerons. Nous parlerons de celle qui tombe dans la bonne terre. Alors, La semence qui tombe dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole. Ah, voilà donc des oreilles qui écoutent. Et dans chacun des trois évangiles qui nous parlent de cette bonne parole, qui a été entendue, qui a été écoutée, il y a ensuite quelque chose qui doit être déclenché dans l'être par cette parole elle-même. Dans l'évangile de Matthieu, nous la trouvons, comme nous le savons, au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, c'est celui qui entend et comprend la parole. Et comprend. Alors, il faut entendre et comprendre par l'esprit renouvelé. Ceci s'adresse donc à l'intelligence renouvelée qui comprend et pénètre ainsi les voies de Dieu. Dans l'évangile de Marc, où nous trouvons cette même parabole au chapitre 4, alors, la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent. Il faut la recevoir. Et ceci s'adresse davantage à la conscience qui accepte ce que la parole dit, ce qu'elle dit de moi, ce qu'elle dit de l'état de mon cœur, de ce qu'elle dit de mon état irrémédiable. Ceux qui la reçoivent, c'est le propre de l'évangile de Marc. Entendre et recevoir, accepter ce que Dieu dit. Et dans l'évangile de Luc, nous la trouvons donc au chapitre 8, il est dit, dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent et qui, nous est-il dit, la retiennent dans un cœur honnête et bon. La retenir dans un cœur honnête et bon. Et ceci s'adresse au cœur qui, désormais, ayant reçu la parole, l'ayant comprise, a à cœur de la mettre en pratique. Écouter la parole, c'est cela. La laisser pénétrer. Accepter tout ce qu'elle dit de moi, de l'état du monde, de l'état de mon cœur, de mon état de péché. La recevoir. La comprendre en la sondant. Et ensuite, la recevant dans un cœur honnête et bon, la mettre en pratique. C'était là donc la confession de Daniel. À partir du verset 15, il y a donc les requêtes faites par Daniel qui vont s'appuyer sur deux éléments essentiels. Du verset 15 au verset 7 et verset 16, il va s'appuyer essentiellement sur ce que Dieu a fait dans le passé concernant son peuple. Alors, verset 15, « Et maintenant, Seigneur, » il s'adresse à lui comme Seigneur, ayant toute autorité, « Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir d'Égypte ton peuple du pays d'Égypte à main forte, et qui t'es fait un nom comme il paraît aujourd'hui. » Voilà. Dans le passé, pour un peuple qui n'était pas meilleur que l'est ton peuple aujourd'hui, tu as fait de grandes choses. Tu l'as fait sortir de la terre d'esclavage. Nous sommes dans la même situation. Tu peux recommencer de faire sortir ton peuple de l'oppression. Tu l'as fait sortir du pays d'Égypte comme il paraît aujourd'hui. Alors il renouvelle la confession, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Et alors il rappelle au verset 16, de nouveau sous ce titre de Seigneur, Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie. Alors, selon toutes tes justices, à Sinaï, nous avons vu quelques justices. La loi qui a été donnée, si elle avait été donnée seulement en justice, anéantissait le peuple qui avait désobéi avant que la loi même fût descendue du mont Sinaï. Mais cette loi a été donnée, justice mitigée de miséricorde et de grâce. Selon toutes tes justices, il y a toujours place pour la miséricorde dans tes justices vis-à-vis de ceux qui ne méritent rien. Selon toutes tes justices, alors que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de ta ville, de Jérusalem, de ta sainte montagne. Et voici une expression qui touche le cœur du Seigneur. C'est ta ville, c'est ta sainte montagne. Voilà ce que tu as fait dans le passé. Et ce peuple que tu as fait traverser le désert, venu du pays d'esclavage, tu l'as planté là, jusque sur ta sainte montagne. C'était le chant, le cantique
chanter au-delà de la mer Rouge, parlant de cette sainte montagne. Eh bien, c'est ta sainte montagne toujours. Et puis, à partir alors du verset 17. Et maintenant. Alors, au verset, à la fin du verset 16, car à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont maintenant en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Voilà ce que nous sommes devenus. Alors, deuxième requête, qui va faire appel, si on peut dire, à des miséricordes nouvelles de la part de Dieu. Et maintenant, verset 17, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications pour l'amour du Seigneur. Voici un accent qui a dû émouvoir le cœur de Dieu. Je ne fais pas seulement appel à ce que tu as fait dans le passé. Nous ne méritons pas plus que ceux dont tu t'es occupé, mais tu es le Dieu d'amour. Et selon ton amour, réponds à la supplication de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Non pas sur moi, non pas sur ton peuple, mais sur ton sanctuaire, ta ville, ta montagne sainte. Fais luire ton sanctuaire. Tout pour la gloire de Dieu. Pour ta gloire, par amour, fais cela. Et il poursuit, incline ton oreille, ô Dieu, écoute, ouvre tes yeux, vois nos désolations, la ville qui est appelée de ton nom, car nous nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions, voilà encore appel à l'amour et aux grandes compassions, Seigneur écoute, Seigneur pardonne, Seigneur sois attentif et agis, ne tarde pas, à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Tout est à toi, tout vient de toi. Tu nous l'avais donné par miséricorde et par amour, mais ce qui revient et qui te revient, fais luire à nouveau ta face sur ce qui est la gloire même de Dieu. Voici ici toutes les ressources que trouve dans son cœur, et le cœur de Dieu y trouve écho, y fait écho. Ce serviteur humilié, courbé jusqu'en terre, devant son Dieu.
Une magnifique illustration de ce que nous venons de dire dans le chapitre 63e d'Ésaïe. Et il vaut la peine, tout cela étant tellement important pour nous tous, de relever aussi quelques expressions dans ce chapitre 63 d'Ésaïe. Dieu a choisi d'abord son peuple, et ce sera la raison pour laquelle ces hommes de Dieu fidèles pourront se référer, malgré leurs péchés, se référer au choix que Dieu lui-même a fait. Ils feront appel à ce choix-là pour justifier leurs prières et leurs supplications. Nous lisons dans le chapitre 63 d'Ésaïe, au verset 8e, et il dit « Certainement, ils sont mon peuple, des fils qui ne mentiront pas. » Voilà ce que Dieu voulait faire de ces hommes qu'il a choisis. Il n'a pas choisi le peuple d'Israël parce qu'il était le plus grand, le plus fort, mais il l'a choisi justement parce qu'il pourrait, à travers ce peuple, dans sa faiblesse, il pourrait témoigner de la grandeur de sa puissance et de la grandeur de sa bonté. Mais au verset 10e, nous lisons à la fin du verset 10e, « Lui-même, il combattit contre eux. » Voilà le jugement que Dieu doit porter à ce peuple qu'il a choisi lui-même. Il doit combattre contre eux. Alors, le prophète, de relever ce que Dieu a fait pour ce peuple, il le dit, n'est-ce pas ? Où est celui, c'est le verset 11e, où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger et son troupeau ? Où est-il, ce Dieu qui nous a sauvés si souvent ? Maintenant, il combat contre nous. Où est-il ce Dieu sauveur? Et alors, la prière du prophète, au verset 16e, « Tu es notre Père ». Si Abraham ne nous connaît pas dans le sens que si nous sommes si différents, si infidèles par rapport à Abraham, eh bien malgré tout, notre Rédempteur est de tout temps parce que toi, Éternel, tu es notre Père, ton nom est notre Rédempteur de tout temps. Même si nous ne sommes pas dignes de nos pères, même si nous avons manqué, eh bien cela, c'est une référence pour montrer notre insuffisance. Mais notre référence pour notre prière et notre supplication, c'est notre Rédempteur de tout temps. Et alors, au chapitre 64, au verset 6e, que sommes-nous nous-mêmes ? Toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. Nous ne pouvons faire preuve de rien de nous-mêmes, mais nous devons compter uniquement sur ce choix délibéré de Dieu pour son peuple, tel que cela est dit au verset 9 du chapitre 64. Voici, regarde, nous sommes tous ton peuple. Voilà une démarche absolument semblable à celle que nous trouvons dans la prière de Daniel. Concernant aussi le fait d'écouter la parole telle que cela nous a été rappelé tout à l'heure, nous aimerions rappeler ce verset de l'épître de Jude au verset 3e. Il y a une première démarche. Quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, la première démarche, c'est la révélation que Dieu donne de son salut. Il l'offre au pécheur et il se révèle lui-même. Et c'est au pécheur de reconnaître son état et de saisir cette planche de salut, pourrions-nous dire. Et ensuite, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre. Il y a une première démarche, Dieu se révèle. La démarche du pécheur, choisir ce salut. Mais c'est un salut qui engage et ce salut doit nous aider à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Nous devons combattre selon la révélation qui nous a été donnée et c'est dans cette direction-là que nous devons marcher et courir. Autrement, nous ferions ce que font les impies, ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et remarquons encore que dans le chapitre de Daniel que nous étudions en ce moment, dans ce chapitre de Daniel, il est dit, nous n'avons, au verset 13e de ce chapitre, nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Cela revient à dire que la grâce de Dieu nous engage moralement. C'est un message moral, dans un domaine moral. Nous ne pouvons pas comprendre la vérité de l'Éternel si d'abord nous ne nous sommes pas engagés moralement devant lui. Daniel implore, Daniel est revenu de ses iniquités, mais il demande de pouvoir, avec tout le peuple, réaliser pour pouvoir ensuite comprendre la vérité de Dieu.
Comment pouvons-nous entendre, comment pouvons-nous comprendre? C'est par le cœur. Nous avions déjà rappelé la prière de Salomon au moment de la dédicace du temple. Un peu auparavant, Salomon avait, de la part de Dieu, eu l'occasion de demander, de poser une requête, de présenter une requête. Qu'avait-il demandé? 1 roi 3, 9, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute. 1 roi 3, 9. Et là, notre petit B nous dit un cœur intelligent qui comprenne. Et le verset 11, lorsque Dieu lui répond, nous explique ce qu'en fait, de la part de Dieu, Salomon, dans la pensée de Dieu, avait demandé pour lui. Tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, tu as demandé pour toi du discernement afin de comprendre le juste jugement. Comprendre la vérité, on ne peut la comprendre que par le cœur. Écouter, c'est-à-dire recevoir la parole, on la reçoit dans le cœur. Qu'est-ce que le cœur pour un croyant? c'est le siège de nos affections. L'homme est un être créé intelligent, dont l'esprit, éclairé par le Saint-Esprit, peut le mettre en rapport avec Dieu. Mais le centre moral de l'être, c'est le cœur, ce sont les affections. C'est le cœur qui contrôle et qui gouverne les pas. Si l'on regarde la décadence de l'Église depuis Éphèse, la première chose qui est reprochée à Éphèse de la part du Seigneur Jésus, c'est l'abandon du premier amour, non pas le premier historiquement, mais le premier en qualité. C'est la même pensée d'ailleurs que la plus belle robe, le plus bel amour, l'amour complet du cœur pour Christ. Qu'ont fait les rois successivement et qu'avait fait le peuple tout entier? Ils avaient roidi leur cou et endurci leur cœur pour ne pas comprendre. De sorte que la parole de Dieu, envoyée par les prophètes, ne pouvait pas avoir d'entrée dans leur cœur. Il ne doit pas en être ainsi de nous. En Agé, un passage que nous avons souvent rappelé, lorsqu'il est dit « Considérez bien vos voies », c'est-à-dire en fait appliquez vos voies à ce qu'elles soient en rapport avec la pensée et la parole de Dieu, eh bien mettez vos cœurs. C'est par le cœur qu'on comprend. Lorsqu'il faut que nos cœurs soient éclairés par la parole de Dieu. Et alors, nous comprendrons ce qu'ont été nos fautes passées et la manière dont le Seigneur peut nous restaurer. Passage remarquable en rapport avec ce cœur qui écoute, qui comprend, et la parole qui nous est donnée, c'est dans Deutéronome 30, auquel d'ailleurs Paul fait allusion en Romains 11, verset 14, Deutéronome 30, 14. Le commandement, ou précédemment, n'est pas trop merveilleux, il n'est pas trop éloigné, il n'est pas ni dans les cieux, ni au-delà de la mer. La parole, verset 14, est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer.
Verset 9e, Daniel fait appel aux compassions et aux bontés de Dieu. C'est au pluriel. Cela signifie qu'il faut une abondance de compassion et une abondance de bonté de la part de Dieu pour répondre à l'abondance de désobéissance et d'iniquité du peuple. Mais Dieu est assez grand en miséricorde pour répondre à ses péchés. Et plus loin, dans sa prière, au verset 15e, Daniel rappelle à Dieu que finalement, Israël est son peuple. C'est toi qui l'as fait sortir du pays d'Égypte, c'est ton peuple. Tu t'es fait un nom avec lui. C'est ta ville, au verset 16e. C'est ton peuple, encore au verset 16e. Et puis ensuite, c'est ton sanctuaire qui est désolé. C'est ton nom qui est en ligne de cause. Nous aimerions à ce sujet citer l'expérience admirable de Moïse après l'expérience du veau d'or. Nous lisons au chapitre 33 de l'Exode. Au chapitre 33 de l'Exode, au verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, donc Moïse est descendu de la montagne du Sinaï et il voit Aaron et tout le peuple qui adore le veau d'or. Et l'Éternel dit à Moïse, va, monte ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte dans le pays que j'ai promis. Et au verset 3e, car je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple de couronne, de peur que je ne te consume en chemin. Et puis, au chapitre 34e, qu'est-ce qu'il est dit dans la prière de Moïse? Il est dit au verset 8e, et Moïse se hâta et s'inclina jusqu'à terre et se prosterna et dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que le Seigneur marche, je te prie, au milieu de nous, car c'est un peuple de cou roide, et pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour héritage. La première fois, l'Éternel dit, je ne monterai pas au milieu de ce peuple, car c'est un peuple de cou roide, c'est un peuple désobéissant. Et puis dans la prière de Moïse, au chapitre 34e, Moïse dit, mais c'est justement parce que ce peuple est un peuple de cou roide que tu dois monter au milieu de nous, que tu te dois d'être là au milieu de nous. Et entre ces deux circonstances, que s'est-il passé? Moïse a demandé à voir la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, non, je ne veux pas te montrer ta gloire, parce que si tu voyais ma gloire dans ces circonstances, le peuple serait immédiatement supprimé. Il ne pourrait tenir devant ma gloire, parce qu'il a péché trop gravement. Mais je te ferai voir ma bonté. Et c'est à cause de sa bonté, ce que Daniel appelle ses compassions et ses bontés, que l'Éternel peut manifester sa miséricorde. Ce n'est pas parce que le peuple est devenu meilleur, il est resté le même peuple, un peuple au cou roide, mais c'est parce que l'Éternel a fait passer toute sa bonté devant Moïse, et alors l'Éternel peut accompagner ce peuple.
Il y a aussi cette pensée que Dieu fait une proposition à Moïse, celle d'anéantir le peuple et de mettre à part Moïse lui-même, la propre famille de Moïse. Et ce serviteur, dans son amour pour le peuple et dans sa grande humilité, n'a pas voulu cela. Ceci revient un peu ici, dans notre passage, quand nous voyons, on l'a déjà rappelé au verset 10, au verset 11, « Et tout Israël a transgressé ta loi. » Nous avons chez Moïse, nous avons chez Daniel, nous avons chez les prophètes autrefois, ce sentiment que le peuple fait un. Que le bonheur doit être partagé, mais qu'aussi l'infidélité, le désordre est le fait de tous, et demande à tous de savoir courber la tête. Tout Israël. On l'a rappelé, quand Élie dresse son autel, il dresse un autel de 12 pierres. Mais j'aimerais encore citer deux expressions de la parole qui sont assez remarquables, dans la bouche de Paul, dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, quand il est devant Agrippa, ou alors il peut parler de ce qu'a été sa jeunesse, verset 4, « Ma manière de vivre donc dès ma jeunesse, telle qu'elle a été dès le commencement au milieu de ma nation à Jérusalem, tous les Juifs la connaissent, m'ayant connu depuis le commencement, s'ils veulent rendre témoignage. » Sachant, selon que l'accès la plus exacte de notre culte, j'ai vécu pharisien. Et il peut dire au verset 6, « Et maintenant, je comparais en jugement pour l'espérance de la promesse faite par Dieu à nos pères, à laquelle nos 12 tribus, en servant Dieu sans relâche, nuit et jour, espèrent parvenir. » Nos 12 tribus, en servant Dieu sans relâche, espère parvenir. Et une autre expression bien connue de Romains 11, où il peut dire encore, c'est au verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à la plénitude des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit le libérateur, etc. Nous sommes engagés à marcher dans un chemin étroit. Nous sommes engagés à marcher dans un chemin de séparation. Ceci, nous le savons et nous le rappelons. Mais notre devoir est d'y marcher avec un cœur large. Combien y a-t-il dans nos journées de prière qui sont adressées en faveur de tant de croyants, de tant de fidèles dispersés au milieu de tant de systèmes différents? Combien souvent y pensons-nous? Combien dans nos réunions d'assemblée, nos réunions de prière, nos pensées vont à travers tant d'âmes qui ont la vie, mais qui sont au milieu de ténèbres, au point de vue doctrine, au point de vue enseignement, et qui sont pourtant ceux que le Seigneur aime aussi. Élargissons nos cœurs, et que dans nos pensées et dans nos prières, ceux-là soient aussi placés devant le trône de la grâce.
Mon cœur s'étant détourné, et voilà où le cœur avait entraîné, il y a eu ensuite la colère de la part de Dieu, et sous son fils Roboam, la brèche a eu lieu entre les deux tribus et les 10 tribus. Ces 12 tribus ne sont jamais retrouvées ensemble. Et pourtant, Élie a bâti l'autel des 12 pierres, nous venons de le rappeler. Ézéchias, au premier réveil du peuple, avant celui de Josias, a envoyé des courriers par tout Israël. Éphraïm, quelques-uns sont venus en humiliant leur cœur et sont venus à Jérusalem, c'était le seul lieu où pouvait être proclamée en pensée au moins l'unité du peuple. Lorsque Daniel a fait sa confession et que le peuple, dans ses 2 tribus de Juda et de Benjamin seulement, a été restauré et remonté dans sa terre, ça ne signifie en aucune manière que l'unité des 12 tribus soit à ce moment-là retrouvée, puisque même les 2 tribus ne sont pas toutes remontées, et les 10 tribus sont perdues dans les nations jusqu'à ce jour. Et c'est dans Ézéchiel 37 où nous voyons la résurrection nationale du peuple, qui est encore pour un temps à venir. Nous en voyons actuellement les signes évidents avant-coureurs lorsque l'État d'Israël a été formé en, je crois, 1946. Mais c'est après l'enlèvement de l'Église que cette restauration nationale aura lieu et qu'alors Dieu reprendra le cours de ses voies en grâce à l'égard de ce peuple. C'est dans Ézéchiel 37 qu'il nous est dit au verset 24 « Mon serviteur David sera roi sur eux et il y aura un seul pasteur sur eux tous. » Tous, c'est-à-dire les 10 tribus d'Israël et les 2 tribus de Juda et de Benjamin, pas maintenant. De la même manière, l'Église a perdu à jamais son unité publique extérieure. Depuis Thyatire, il n'y a plus du tout d'espoir d'une restauration collective, publique, entière. C'est à partir de Thyatire que se détache l'histoire du protestantisme et que cohabitent jusqu'à la fin les trois églises supplémentaires, c'est-à-dire les 4 de la fin, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Il n'y aura point d'autre réveil que celui du protestantisme qui avait comme antitype la restauration d'Ézéchias et celle du réveil du siècle dernier de Philadelphie qui avait comme antitype le retour à la parole du temps de Josias. Alors que faut-il faire? Eh bien, continuer chaque dimanche par la fraction du pain à célébrer la valeur de l'œuvre de Christ pour l'unité de son seul corps, et embrasser dans les cœurs et les pensées de tous les croyants cette unité du corps de Christ. Que l'unité de ton corps, Seigneur Jésus, est belle. On a peut-être quelquefois une hésitation à chanter le premier verset du Cantique 20. Et je pense que si nous avons la conscience de l'état de l'Église et en même temps de la grâce de Christ et de la valeur de son œuvre, nous pourrons quand même chanter que cette unité du corps de Christ est belle, nous ne la voyons pas sur la terre. Et pour nous, que faut-il faire? Mais il faut porter l'ensemble, dans l'humiliation et dans la confession, de la misère, des fautes, des faiblesses de cette Église entière. Mais en même temps, ne pas chercher à restaurer ce que Dieu n'a pas jugé bon de restaurer, c'est-à-dire l'unité publique. Daniel confesse l'ensemble de la faute des 12 tribus d'Israël, mais en même temps, ne cherche en aucune manière à aller rechercher dans les nations d'Assyrie les 10 tribus perdues pour les ramener à Jérusalem. Puisque même nous l'avons rappelé hier, probablement, il n'y est lui-même jamais remonté.
Le sacrifice est offert pour tout Israël, dit ce roi. Non pas seulement pour la tribu de Juda, dont il est le roi, mais pour tout Israël. 12 boucs en sacrifice pour le péché, comme dans Esdras. C'est l'occasion, en 2 mots, de rappeler une affirmation fondamentale de nos devanciers. Notre témoignage, disait-il, est à l'unité du corps de Christ, car il y a un seul corps, aujourd'hui, comme au plus beau jour de la Pentecôte. Et le seul corps que Dieu reconnaisse sur la terre, c'est le corps de Christ formé par le Saint-Esprit. Ce qui nous lie les uns aux autres en un seul corps, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la foi, bien que ce soit des liens secondaires si l'on veut, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, notre témoignage est à l'unité du corps de Christ, dit-il. Ne serions-nous que deux ou trois croyants, sur ce terrain de la parole de Dieu, nous pouvons proclamer, quoi qu'il en soit, qu'il y a un seul corps. Aujourd'hui, malgré la dislocation extérieure, Dieu connaît ceux qui sont siens et il y a un seul corps. L'unité extérieure a été perdue, mais l'unité selon Dieu, formée par le Saint-Esprit, elle est indestructible. Et c'est bien contre cette unité que l'ennemi s'est acharné depuis le commencement. Autre chose, c'est le frère McIntosh qui dit dans un de ses écrits, la position de séparation que nous occupons, chemin de sentier que nous poursuivons, tend à rétrécir nos affections. C'est-à-dire, le chemin étroit que nous suivons a la tendance de rétrécir nos cœurs. Mais il nous faut, disait-il, pour faire pendant à cette tendance, à ce sentiment si naturel, il nous faut dans nos cœurs, c'est une belle expression, l'expansion de la grâce de Dieu. Ce mouvement d'expansion de la grâce de Dieu qui embrasse tous les saints. Car il y a un seul corps, et cette unité est donc proclamée à la table du Seigneur, dressée sur le terrain du seul corps de Christ, le seul que Dieu reconnaisse sur la terre. De sorte que dans le pain de la scène, nous n'avons pas seulement, selon 1 Corinthiens 11, le côté du mémorial si précieux du Seigneur Jésus qui donne son corps pour nous, mais nous avons aussi l'affirmation qu'il y a un seul corps, un corps mystique, formé de tous les croyants, unis par le Saint-Esprit, à la tête Christ glorifié au ciel.
La peine d'insister un peu sur cette question de l'unité du corps, puisque nous y sommes, et de voir un peu les efforts que des chrétiens certainement sincères ou des hommes faisant partie de la chrétienté cherchent à faire pour rétablir cette unité. Il y a des prises de position très diverses à ce sujet et il vaut la peine d'y être attentif parce qu'elles correspondent à des efforts humains. Il y a la position de l'Église catholique qui a accumulé, en plus de la révélation biblique, toute une tradition, si bien que la tradition apportée par les pères de l'Église en particulier a une importance presque aussi grande et aussi fondamentale pour le catholique que la révélation biblique sainte et pure. Et nous comprenons bien que cette accumulation de traditions, de rites, ne peut être en aucun cas une réponse à la pensée de Dieu sur l'unité. Il y a eu plus récemment, une autre position qui voulait rétablir cette unité des ce qu'on appelle des églises, entre guillemets, ensemble par des efforts humains. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'œcuménisme. Mais cela représente une forme purement extérieure de l'unité. Ce n'est pas du tout l'unité du corps qui est réalisée, c'est l'unité des hommes, chrétiens ou pas chrétiens, mais c'est une unité d'hommes. Et c'est pourquoi l'œcuménisme ne peut en aucun cas satisfaire le chrétien qui cherche à réaliser, selon la pensée de Dieu, qui cherche à réaliser l'unité du corps. Il y a maintenant un mouvement qui est très important, c'est le mouvement charismatique
qui met plus ou moins la parole de côté pour laisser libre cours à l'expression du Saint-Esprit chez le croyant, et à ce moment-là, on veut rétablir l'unité par cette action du Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'expérience que chaque croyant ou chaque personne dite croyante, on ne sait pas à nous de juger si ces personnes sont sauvées ou non, par l'expérience que ces personnes font des manifestations de l'Esprit en elles. Ainsi, la parole est finalement reléguée au second plan par rapport à l'expérience charismatique. Cela aussi est un grand danger, parce que nous savons bien que chaque personne réagira différemment dans ce qu'il croit être expression du Saint-Esprit, mais qui est très souvent une expression de la chair, très souvent. Il suffit de se rendre compte de certains récits sur ces expériences qui ont souvent même valeur d'une puissance diabolique qui se manifeste. Alors, dans cette situation où l'esprit de l'homme joue un tel rôle, où on veut imposer certaines formes extérieures pour retrouver cette unité, nous comprenons alors la beauté et la grandeur de la position de Daniel. Et remarquons que Daniel, qui réalise l'unité d'Israël dans l'humiliation, dans la confession, prenant sur lui tous les péchés d'Israël, comme lui-même y étant directement impliqué, remarquons que c'est à cause même de cette position-là que Dieu va lui faire les révélations des paragraphes suivants. Nous lisons en effet au verset 20e, « Je parlais encore, verset 21e, « Je parlais encore en priant. » C'était au moment même où son cœur explosait devant l'humiliation, et dans l'humiliation et dans la confession, que pendant ce temps-là, que Dieu va se révéler à lui. Et que va lui dire le Seigneur? Nous le verrons en détail après, Dieu voulant, mais nous voulons simplement relever ceci. Le Seigneur, l'Éternel, va lui révéler que cette unité ne pourra plus être établie, que c'est plus possible, que son peuple devra souffrir encore beaucoup jusqu'à ce qu'il retrouve un temps de bénédiction. Tout ce qui peut être demandé aux croyants, c'est d'être fidèle dans sa mesure et dans la réalisation du péché du peuple et dans la réalisation des compassions de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, pour nous, une position que nous devons rechercher de tout notre cœur. Et nous pouvons être sûrs que pendant que nous prions, Dieu répondra. Il y a une pensée qui est si souvent émise et exprimée, c'est que l'humiliation est un élément purement négatif. On ne fait que rappeler les fautes, on ne fait que rappeler le passé et que ça ne sert finalement à rien. On entend cette pensée-là, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une pensée qui met de côté Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur, et s'il voit un cœur humilié, il lui répondra à sa manière, à sa manière. Comme il l'a fait avec Daniel, il n'a pas dit à Daniel, tu sais, il ne faut pas te faire souci, je vais réunir maintenant tout ton peuple, vous allez être heureux, maintenant tu as confessé ton péché, il n'y a plus de problème. Non, il va lui dire, tu vois, il faudra encore que ce peuple souffre beaucoup, il faudra encore qu'il fasse beaucoup d'expériences, jusqu'à ce que je puisse lui manifester mon amour et que tu puisses constater cette unité dans la réalité.
Cette fin de prière de Daniel est en effet remarquable. Au verset 19, donc après avoir encore imploré les grandes compassions de Dieu, la fin du verset 18, pour la troisième fois, il peut dire « Seigneur, écoute. Et eux n'ont pas écouté, mais il sait que le Seigneur écoute. Et il l'implore, Seigneur écoute, pour la troisième fois. Et il ajoute, Seigneur pardonne. C'est un point important. S'il peut dire « Seigneur, pardonne », c'est qu'il a confessé. C'est un point important. Le pardon ne peut être accordé qu'à qui confesse. La confession de bouche doit précéder le pardon. La confession est achevée et il peut dire « Seigneur, pardonne ». Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Ta ville, ton sanctuaire désolé, qu'est-ce que Jérusalem si ce n'est qu'un sanctuaire désolé? Qu'est-ce que ta ville si ta ville est désolée? Ce n'est plus ta ville. Seigneur, agis. Seigneur, réponds. Et cette prière touche tellement le cœur de Dieu qu'il envoie un ange avec rapidité, nous est-il dit. Je parlais encore, on a insisté sur ce rap, je parlais encore, et je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple, je présentais ma supplication devant l'Éternel mon Dieu, pour la sainte montagne et mon Dieu, je parlais encore en priant, et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision, au commencement volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande du soir. Dieu envoie avec rapidité. L'ange Gabriel est envoyé avec rapidité. Il y a des prières qui reçoivent leur réponse avec rapidité. Et Dieu peut-être de façon rapide peut répondre oui ou peut répondre non. Il y a des prières pour lesquelles il faut la patience et la persévérance. Et la réponse du Seigneur est alors « Attends, attends ». Mais il y a, et on avait déjà relevé ceci, une heure qui est donnée là, l'heure d'une réponse. Avons-nous gardé gravé dans notre pensée l'heure d'une réponse qui nous a été donnée? Le Seigneur, lui, gardera pendant l'éternité, gravé l'heure d'une prière à laquelle il n'a pas été répondu. Et où il a dû dire, mon Dieu, pourquoi? Ici, c'est l'heure de l'offrande du soir. L'offrande du soir, lisons juste un verset. On l'a rappelé déjà ce matin, mais en Exode 29, il y avait donc une offrande le matin et le soir. Et en Exode 29 au verset 41, il peut être dit, « Et tu offriras le second agneau entre les deux soirs, tu l'offriras avec la même offrande de gâteau qu'au matin. » Nous voyons donc là l'association donc au sacrifice d'agneau de l'offrande de gâteau qui devait être offerte ainsi, le matin et le soir. Ce sera l'holocauste continuel en vos générations. On a rappelé aussi cette expression du psaume 141, nous la relisons encore pour ceux qui n'étaient pas là, au psaume 141 et verset 2. « Que ma prière vienne devant toi, comme l'encens, l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. » On a rappelé aussi Esdras assis, désolé jusqu'à l'offrande du soir, et qui se relève, c'est Esdras 9, au moment de l'offrande du soir. L'offrande du soir en figure le moment du sacrifice de Christ. Et c'est à ce moment-là que la réponse va être donnée. Mais pourtant, pour Daniel, que signifiait l'offrande du soir? Il y a bien longtemps qu'à Jérusalem, il n'y avait plus d'offrande, ni le matin, ni le soir. Il n'avait jamais connu, lui, l'offrande du soir, déporté qu'il était depuis tant et tant d'années, jeune homme de la race royale transporté à Babylone. Il n'avait jamais certainement connu de près l'offrande du soir. Mais son cœur était là, parce que le cœur de Dieu est là. Et c'est pour nous un point important. Combien parmi nous, des frères, des sœurs, qui pendant des années ont été fidèles à l'offrande du soir, je pense essentiellement à la réunion de prière de la semaine, à l'heure où l'assemblée regroupée en assemblée offre sa prière à son Dieu, et qui ont été là, et qui, en raison du grand âge, en raison de la distance, en raison de la maladie, ne sont plus là, mais dont le cœur est toujours là. Est-ce de la part de l'assemblée quelque chose de conséquent de ne même pas les nommer devant Dieu? Pourquoi dans nos réunions de prière, il y a tant de bouches qui restent silencieuses, qui ne parlent pas même de telles mamans, de tels papas qui ont été fidèles et dont les pensées sont là et qui ne peuvent plus nous accompagner et qui sont oubliés? Pensons-y. L'heure de l'offrande du soir, elle est chère à nos vieillards qui ont été fidèles. Ne les oublions pas à l'heure de la réunion d'assemblée. Et puis une autre pensée. Je pense au début de l'évangile de Jean, où Jean, le baptiseur, avait ses deux disciples autour de lui. Et puis Jésus est venu, et le premier jour il l'a présenté. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ses deux disciples, certainement du jour au lendemain, ont dû l'interroger. Et le lendemain, Jésus se présente à nouveau, et voyant Jésus qui marchait, Jean le baptiseur dit, voilà l'agneau de Dieu. Et voilà que deux disciples quittent Jean le baptiseur, marchent derrière Jésus, et Jésus se retourne. Que cherchez-vous? Rabbi, où demeures-tu? Et ils demeurèrent, venez et voyez, et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Pensons à ce que ce dut être à ce moment-là pour Jean le baptiseur qui avait été en quelque sorte un centre de rassemblement de ses deux disciples et de quelques autres, de les voir qui s'éloignaient un peu. C'est environ la 10e heure. Le centre de rassemblement devient le Seigneur lui-même. On peut avoir été qualifié pour un service. On peut, de la part du Seigneur, avoir reçu un ministère. Et puis voilà. Les réunions d'assemblée, les frères, les sœurs, tous la prennent un peu de distance. Sachons être comme Jean le baptiseur, si cela atteignait un jour l'un ou l'autre d'entre nous, être celui qui de loin écoute. Je suis tout réjoui, car l'époux parle à l'épouse. C'est le chapitre 4, chapitre 5 de l'évangile de Jean. Il n'est qu'à distance. Mais il entend de loin que c'est autour de l'époux qu'ils sont rassemblés, et la voix vient jusqu'à lui. Et il a jugé, il conclut, il convient bien que lui croie et que moi je diminue.
Quel, en appelant la sainte montagne de Dieu, la ville de Jérusalem, ne se livre pas à une exagération de pensée. Il a appris cela. Nous l'avons entendu, nous l'avons lu, qu'il disait la parole. Et un psaume tel que le psaume 48 ne lui est pas étranger. Et on lit dans ce psaume ce que l'Esprit de Dieu éprouve, ce que l'Esprit de Dieu rappelle de la part de Dieu, l'estimation qu'il fait de Jérusalem et de la montagne de Sion. La première chose que David, la première activité que David déploie lorsqu'il est monté sur le trône, plus précisément lorsqu'il devient le roi de tout Israël, c'est de s'emparer de la forteresse de Sion, que personne n'avait pu prendre jusque-là. Les Jébusiens y habitaient,
Et les fils de Benjamin avaient essayé de prendre cette redoute. Ils n'y étaient pas parvenus malgré leur intrépidité, la qualité de leurs soldats et le dévouement, l'entrain, toutes les qualités qu'ils déployaient. Et voilà que David, avec quelques hommes, s'est emparé de la forteresse de Sion. C'est la première fois que nous avons la mention de Sion dans la parole de Dieu et justement en rapport avec le roi David, le roi selon la grâce. C'est déjà des éléments fort importants. Mais David a appris aussi dans la parole de Dieu ce qu'était Sion, 1 Chronique 9, déjà chanté, déjà apprécié, déjà estimé par les fils de Corée depuis les jours de Samuel. Sorte que David ne commette aucune erreur en ayant comme premier objectif de s'emparer de la forteresse de Sion. Et dans le psaume 48, ce sont les fils de Corée eux, qui en parlent, puisque nous avons Daniel qui fait appel aux compassions de Dieu pour la sainte montagne. Il n'a pas inventé ce terme. Nous lisons dans le psaume 48, « L'Éternel est grand et fort, digne de louange dans la ville de notre Dieu, dans sa montagne sainte. » Vous voyez l'identification de la ville de notre Dieu avec la montagne sainte. Et au verset 2, il est ajouté « Belle dans son élévation, la joie de toute la terre, telle est la montagne de Sion, au côté du nord, la ville du grand roi. » Quelles expressions poétiques et de toute beauté particulièrement élevée pour nous dépeindre Jérusalem, la sainte montagne de Dieu, la ville qu'il a choisie et sur laquelle il ne revient jamais, sur le choix de laquelle il ne revient jamais. Sauf que Daniel ne commet aucune méprise, ne se livre à aucune exagération en rappelant que la sainte montagne, c'est la ville de Jérusalem qui n'est plus qu'un monceau de ruines et envers laquelle Dieu voudra bien exercer ses compassions. Psaume 132, encore une expression à l'égard de cette ville, et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Pour mémoire, d'ailleurs, la ville de Sion, la mention de Sion, la montagne de Sion est citée 7 fois dans le Nouveau Testament, 150 fois environ dans l'Ancien. Mais 7 fois dans le Nouveau Testament, il vaut la peine de les chercher, parce que chaque fois nous y trouvons un enseignement très important. Mais ici, dans le psaume 132, au verset 13, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour être son habitation. Voyez que Daniel ne commet aucune erreur. Quelle image pour nous de ce qu'est l'Église pour le cœur de Dieu, l'assemblée qu'il s'est acquise au prix du sang de son propre Fils. Rien de commun avec l'Église multitude, il en a été question. Et nous disons seulement ce mot, elle se dit apostolique, catholique, romaine. Mais elle n'est qu'une des 3 choses qu'elle affirme. Elle n'est pas apostolique, elle n'est pas catholique, elle est seulement romaine. Dieu n'a que faire de caricatures et de choses inventées par les hommes. Mais toutefois, quelqu'un a demandé... Et nous aimons rappeler cette expression, avez-vous le droit de désavouer l'Église dans son état général, tel qu'elle est aujourd'hui, en ruine, sans doute disloquée, malgré les prétentions de quelques grands corps qui font état de leur passé, de leurs antécédents, tout ce dont l'homme peut se vanter, et les habits imposants dont il se revêt, aussi bien au point de vue moral qu'au point de vue... Un du moral qu'au point de vue littéral. Alors, qu'est-ce que nous répondions, jeune? Ce cher frère du commencement était là, essayez de nous demander ici, avez-vous le droit de désavouer l'Église, multitude? Nous dirions sans doute oui, parce qu'en fait, il semble que nous la désavouons en nous séparant d'elle. Eh bien, il nous répondrait, si nous parlions ainsi, vous vous trompez. Vous n'avez pas le droit de désavouer l'Église, parce que vous faites partie de l'Église. Parce que vous faites partie de la maison de Dieu. Et ce qui vous incombe comme devoir et comme privilège, c'est de vous identifier avec cette ruine, tout en nous séparant de tout ce qui est faux, selon 2 Timothée 2 sans doute. Mais nous n'avons pas le droit de la désavouer, mais bien de pleurer sur sa ruine. Ce que nous avons le droit de désavouer et le devoir de désavouer, C'est tout ce que les hommes ont inventé pour masquer cette ruine. Toutes les organisations, tout ce qui peut être séduisant dans le côté extérieur revêtu par l'Église, de quelque nom qu'elle se nomme, cela nous avons le droit de le désavouer. Non seulement le droit, mais le devoir. Mais en tant que tel, ce que l'Église est devenue, c'est votre faute, c'est ma faute, c'est notre faute à tous.
C'est dans le même courant de pensée que ce que vient d'exprimer notre cher frère. Je voulais souligner que dans la seconde partie de cette prière, dans les versets 15 à 19, le serviteur Daniel, homme de foi, identifie pour ainsi dire le peuple de Dieu avec Dieu lui-même, ou désigne ce peuple comme étant le peuple de Dieu. Et les expressions remarquables se trouvent aux versets 16, 18 et 19, que nous lisons. « La ville de Jérusalem, c'est la ville de Dieu, ta sainte montagne, Jérusalem est ton peuple, ton sanctuaire désolé, ton nom, ta ville est ton peuple. » De sorte que ce qui était dans le cœur et sur les pensées de Daniel, c'était la ville de Jérusalem, la sainte montagne de Dieu, où Dieu avait dit qu'il ferait habiter son nom. Il avait choisi Jérusalem, selon la pensée du psaume 132, que notre cher frère vient de rappeler, comme étant sa demeure pour l'éternité, où il avait aimé et où il désirait y trouver son repos au milieu de son peuple. En même temps, le peuple était le peuple de Dieu et il devait habiter là. Alors, lorsque la pensée de Dieu répond à Daniel, dans les passages que probablement nous lirons si le Seigneur n'est pas venu dans la seconde réunion, eh bien maintenant, Daniel est pour ainsi dire identifié avec le peuple de Dieu. De sorte que pour Dieu, le peuple d'Israël, il est vu en Daniel. Et pour le cœur de Daniel, le peuple d'Israël, il est vu dans le cœur de Dieu. Verset 24, ta sainte ville est ton peuple, pour clore la transgression. Évidemment, cette comparaison est de toute beauté. Que trouvons-nous en Jérusalem, le lieu où Dieu a dit qu'il ferait habiter son nom? C'est là que, en Deutéronome 16, la Pâque devait être célébrée, justement, entre les deux soirs. Là où Dieu devait faire habiter son nom. Nous y trouvons les trois montagnes. La montagne de Sion, sept fois mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est la montagne de la grâce royale. Nous abandonnons la montagne du Sinaï pour y monter par étapes successives, comme en Hébreux 12, jusqu'à y trouver qui ? Christ. Le sang d'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Nous y trouvons la montagne de Morija, où Abraham a offert son fils, où le temple devait être édifié, où le sacrifice a été offert lorsque David, par sa propre faute, entraîne le peuple dans le malheur. Et plus tard, notre Sauveur devait être sacrifié. Nous y trouvons la montagne des Oliviers, sur les pentes de laquelle s'est trouvé le jardin de Gethsémané. Ce lieu même où, en gloire, Christ reviendra un jour pour y établir la justice des siècles. Toutes ces montagnes sont la sainte montagne. Pour être complet, mais c'est un peu en dehors du sujet, il est triste d'être obligé d'y ajouter la quatrième, au sud de la montagne des Oliviers, qui est la montagne de corruption, où Salomon a offert de l'encens au faux Dieu. Qui trouvons-nous donc sur cette montagne? Le souvenir de l'œuvre de Christ, le lieu où Dieu a dit qu'il ferait habiter son nom à jamais. L'œuvre de Christ, le nom de Dieu et le peuple réunis autour de Dieu pour toujours.
Seule pensée, seulement sans prolonger sur cette montagne de Sion, que nous trouvons une pensée très belle au psaume 87. Le premier verset, la fondation qu'il a posée est dans la montagne de sa sainteté. Toujours cette même montagne. Premier caractère, la force. Verset 2, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Un lieu de délices, il aime les portes de Sion. Verset 3, des choses glorieuses sont dites de toi, cité de Dieu, un lieu de gloire. Lieu de force, lieu de délices, lieu de gloire. En contraste, dans le verset suivant, les autres cités. Je ferai mention de Rahab, c'est-à-dire l'Égypte, et de Babylone. C'est tout à fait au cœur de Daniel, cela. À ceux qui me connaissent, Voici la Philistie et Tyr avec l'Éthiopie. Et l'on dira, celui-ci était né là. Tous ces grands, tous ces rois, toutes ces puissances, ils étaient nés là. Mais le verset 6, quand l'Éternel enregistrera les peuples, il comptera, celui-ci est né là. Pour ceux qui sont nés en Sion, non pas il était né, il demeure en éternité, celui-ci est né là. Et à la fin, c'est le chant de triomphe. Et en chantant et en dansant, ils diront, toutes mes sources sont en toi. Tout est grâce, tout est pure grâce. Gloire soit rendue à Dieu.
Nos frères vont interpréter un chant, après quoi nous terminerons soit par un chant d'ensemble, mais en tout cas par la prière.
Good.